Bonjour et bienvenue. Vous êtes à l'écoute de l'émission Parole au présent. Au microphone, Claude Julien. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Cette fin de semaine est particulière puisque la fête de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste se célèbre un dimanche. Conséquemment, nous interrompons la série des dimanches du temps ordinaire pour nous concentrer sur l'événement de la naissance de Jean-Baptiste. Sans doute, Francine, vous aimeriez, avant que je lise le texte, nous parler un petit peu de Saint-Jean-Baptiste.
Ah, on aura beaucoup l'occasion d'en parler, mais en fait, ce que j'avais à l'esprit, c'est un Saint-Jean-Baptiste que vous connaissez, que beaucoup connaissent, pour peu qu'ils aient un certain âge. C'est le petit blondinet bouclé qu'on voyait à la fin de la défilé de la Saint-Jean. Dans le dernier char allégorique, le petit blond avec son petit mouton, une image charmante, pacifique, qui a, il faut bien le dire, peu à voir avec l'image que les évangiles nous donnent de Jean le Baptiste, en tout cas adulte, hein, qui s'en prend assez vertement à ses interlocuteurs. Mais comme aujourd'hui on a le récit de sa naissance, on a affaire à un Jean-Baptiste tranquille et qui n'est pas encore baptiste, mais seulement bébé, Jean. Donc, si vous voulez bien nous lire ce récit, on va voir qu'il est très animé et qu'il y a même quelques tensions entre les personnages. Alors.
Donc, c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui répondit, « Personne dans sa famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Francine Robert, on est vraiment en présence d'un récit d'un événement heureux, un climat habituel d'une nouvelle naissance, finalement.
Oui, hein? Oui, on retrouve la joie à laquelle on s'attend dès qu'il y a une fête de famille autour d'un enfant nouveau-né. Par contre, la joie, elle est soulignée souvent dans l'Évangile de Luc. Donc, c'est peut-être plus que la joie à laquelle on s'attend à une fête de baptême, par exemple. Bon, ici, elle est mentionnée, ce sont les voisins et la famille d'Élisabeth qui se réjouissent avec elle. On voit l'aspect communautaire, hein, communicatif de la joie. Mais je dirais que chez Luc, la joie se déploie un peu à partir du tout début de son évangile comme une série de cercles concentriques. Les cercles de la joie s'agrandissent, je puis m'exprimer ainsi. D'abord, il y a la joie annoncée par l'ange qui disait à Zacharie qu'il allait avoir un enfant. Mais on a eu la joie d'Élisabeth aussi lors de la visitation, donc avant notre récit. Quand elle dit à Marie, l'enfant a tressailli de joie hein, dans mon sein, dans mon ventre. Et Marie qui enchaîne aussitôt aussi dans le Magnificat en disant, mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Et on aura par la suite l'ange dans la nuit de Noël. On voit qu'il y a de plus en plus de gens concernés par cette joie. L'ange qui annonce au berger une grande joie pour tout le peuple. On sera rendu au chapitre 2 à la naissance de Jésus.
C'est vraiment comme une lumière qui prend de plus en plus d'expansion.
C'est hein? Ça. Alors, ouais, chez Luc, on a vraiment ouais. Là plus que la joie de la naissance d'un enfant. Le thème théologique de la joie qu'il nous invite à éprouver quand on voit, quand on constate les signes de l'amour de Dieu ou les actes qui manifestent le salut de Dieu. Ça peut être la joie devant une guérison, la joie devant l'accueil d'un pécheur, la joie du fils aîné, hein, qui devrait la ressentir pour le retour de son frère prodigue. Donc, c'est les actes de salut qui suscitent cette joie. Et il s'agit bien de salut ici, d'abord pour Élisabeth. Je rappelle la phrase, « Les voisins se réjouissent en apprenant que Dieu lui a prodigué sa miséricorde. » Prodigué, c'est la traduction liturgique, elle est bien, mais si on voulait être encore plus proche du terme grec qui est là, on pourrait dire « Le Seigneur a fait éclater sa miséricorde ». C'est un mot avec « méga », hein, « méga luno ». « Méga », ça veut dire « grand, gros, beaucoup ». C'est le même mot, par exemple, quand Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur ». On voit « exalter », c'est plus que montrer, là, c'est beaucoup. Donc, c'est ce que le texte nous dit, que Dieu a rendu grande ou manifesté grandement ou fait éclater sa miséricorde envers Élisabeth.
Et quand on sait hein, combien la stérilité était un malheur hein, dans... chez le peuple juif, hein, la première fonction, c'est de donner des enfants à Dieu, finalement. Hein, c'est de lancer des enfants dans la création, de lui fabriquer des enfants.
Au peuple de Dieu.
Oui. Et une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, mais c'est terrible, quoi. Hein,
oui.
C'est un véritable malheur. Hein.
Tout à fait, une honte publique. Évidemment, personne s'imaginait que ça pouvait être... le mari qui soit en cause au niveau de sa stérilité.
Non, évidemment, c'est la femme. Et même le mari pouvait la répudier après 10 ans de mariage si elle n'avait pas donné d'enfant.
Tout à fait. Donc, ça dit, son rôle, c'est d'avoir des enfants. Alors, on comprend que la grossesse d'Élisabeth, qui arrive sur le tard, elle soit vue, bien sûr, comme une faveur de Dieu. Hein. Elle le dit elle-même quand elle découvre qu'elle est enceinte. « Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a jeté les yeux sur moi. » Donc, c'est vraiment un signe pour elle, pour son mari, pour les voisins, pour la parenté, un signe du Dieu compatissant. Alors, c'est pas étonnant qu'on le retrouve ici, puisqu'on le retrouve presque à chaque page de l'Évangile de Luc. Ça fait partie de sa bonne nouvelle, de sa manière de comprendre la bonne nouvelle, la éléos de Dieu, la miséricorde, la compassion.
Et c'est beau, vous avez employé le mot compatissant, hein, compatir,
oui.
Souffrir avec. C'est un Dieu qui souffre avec celle qui souffre, quoi. Hein.
Oui.
Il est proche d'elle, il est avec elle, il est sensible à ça, ça le dérange.
Ouais.
Quoi, hein?
On pourrait dire, même si on suivait Zacharie et le cantique que Zacharie va chanter tout de suite après la naissance de Jean le Baptiste, et ce cantique n'est pas dans la liturgie, mais il est dans l'Évangile, bien sûr, il nous parle des entrailles de la miséricorde de Dieu, sa sensibilité, ça lui fait mal au ventre. Notre malheur. Et donc, tout ce cantique nous aide à comprendre que le récit de la naissance de Jean le Baptiste, ça déborde largement la petite histoire d'une petite famille.
Voilà. Alors donc, il faut aller plus loin, quoi. C'est pas seulement, on fait pas juste relater ce qui est déjà énorme, d'ailleurs, cette attention de Dieu pour cette femme, mais on va plus loin, là. Cette naissance... apporte une réalité radicalement neuve, nouvelle. Là.
Elle est signe de salut pour nous, au fond.
Mm-hmm.
Elle déborde donc l'histoire de cette famille-là pour atteindre toute l'histoire du salut, si on veut.
Est-ce que je vous lis ou si c'est vous qui lisez, c'est les versets 72 et 78?
Non, je pense qu'on va les sauter.
Pour
avancer plus rapidement. Bon, après s'être réjouis avec elle, les voisins et la parenté vont jouer un autre rôle dans le récit de Luc et ça nous amène comme à la deuxième étape du récit. Ils représentent, ces voisins, cette parenté, le poids des coutumes et le poids de l'ordre établi. Comment? Ben, ils appellent déjà l'enfant Zacharie, hein, qui est le nom de son père. Ils ont déjà décidé que cet enfant-là va s'appeler Zacharie. Or, nous savons bien que c'est pas ça qui va se passer. Donc, c'est comme si, contre le poids de l'ordre établi, Luc propose plutôt la nouveauté du salut. Et cette nouveauté du salut, ça déborde aussi le cadre de la naissance de Jean-Baptiste. Une nouveauté qui fait éruption dans l'histoire, finalement, de l'humanité. Et ici, cet aspect de nouveauté, on peut le voir présent de deux façons. Ou je dirais, il y a deux étrangetés. La première, on la remarque pas beaucoup, mais on devrait. C'est sa mère, Élisabeth, prend la parole et dit non.
C'est nouveau, ça.
Ben oui, la liturgie, c'est très bien, la liturgie dit « sa mère déclara, non, il s'appellera Jean ». Mais il y a deux verbes, hein, c'est « sa mère prit la parole », elle a pris la parole, au lieu de se taire.
Deux verbes, hein.
Il y a « prendre
la parole et dire,
dire. ».
Mm-hmm.
Et prendre la parole, on est dans une liturgie publique, là, c'est la circoncision, c'est un truc officiel avec des gens sérieux autour, elle n'a pas à prendre la parole, cette femme-là. Donc, cette audace d'Élisabeth, qui rejoint bien hein, l'importance du rôle des femmes dans l'œuvre du salut pour les écrits de Luc, que ce soit son évangile ou les actes des apôtres, et là-dessus il suit Paul aussi, l'apôtre Paul. Donc, cette audace, on la voit par la réaction des gens, voyons donc, il n'y a personne dans ta parenté qui porte le nom de Jean. Et leur réflexe, c'est évidemment de dire au père, voyons, toi, c'est toi qui décides comment est-ce que tu veux qu'on l'appelle.
Et ça va plus loin. Elle-même va le dire, il s'appellera
oui,
Jean.
C'est ça, elle n'a pas seulement un nom, mais voici cette nouveauté,
et
il
ça,
s'appelle
c'est
Jean.
Bon.
C'est une belle liberté audacieuse qui rappelle celle de la pécheresse chez Simon dont on parlait la semaine dernière, hein, qui entrait comme ça sans être invitée. Bon, c'est typique de certains personnages de femmes dans l'évangile de Luc. Bon,
et puis...
Oui, la deuxième nouveauté, vous l'avez vu.
Ben c'est ça, la nouveauté, c'est que, bon, non seulement elle prend la parole, mais elle donne pas le nom qu'elle devrait donner. Normalement... Ben, il devrait s'appeler Zacharie.
Oui, hein? Hein, c'était la coutume
ben
dans
oui.
beaucoup de sociétés anciennes.
Ben oui, parce que le fils prolonge finalement le père. Hein?
Exactement, et ouais. Ça pouvait être soit le nom du grand-père, soit le nom du père donné au premier fils venu au monde. Le nom du père, particulièrement si le père souffre d'une infirmité, je vous rappelle que Zacharie est devenu muet parce qu'il a douté de la parole de l'ange au tout début du chapitre 1, l'ange qui lui annonçait la naissance de ce fils. Donc, c'est un peu comme si on le disait en langage de psychologie, hein, on reporte sur l'enfant la tâche d'accomplir ce que le parent n'a pas réussi à cause d'un empêchement quelconque, ici le fait que Zacharie soit devenu muet. Il y a une sorte de transfert de destin, hein, presque comme un enfant clone dont le destin est tracé tout d'avance par l'héritage familial. Surtout que Zacharie est prêtre et qu'en Israël, on est prêtre de père en fils. En plus, le sacerdoce au temple, c'est vraiment la fonction la plus honorée dans le peuple de Dieu, donc ça se refuse pas, c'est évident que Jean devrait être Zacharie et devrait être prêtre.
Bon, alors on comprend l'étonnement, oui. Hein, à la fois l'étonnement des parents et des voisins, et c'est encore plus étrange que Zacharie confirme ça, finalement.
Oui. Hein. Et donc, cette confirmation qu'il fait par écrit de la nouveauté, de l'imprévu de Dieu, ben ça lui rend la parole. Voilà, une fois qu'il a consenti à cette nouveauté qu'il n'avait pas lui-même prévue.
Oui, parce
prévu,
qu'il a écrit. Hein? C'est intéressant, ça.
Il doit écrire le nom, il puisqu'il
écrit.
Ne parle pas.
C'est ça.
Et
ouais.
Consentant à cette nouveauté que l'ange lui avait annoncée, à laquelle il n'avait pas cru, maintenant, il peut retrouver la parole. C'est pour ça que le cantique est intéressant, qui viendra un peu plus loin et que nous n'avons pas dans la lecture de la liturgie, parce que retrouvant la parole, ça se développe, ça se déploie en un long cantique d'action de grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et c'est la reconnaissance de Zacharie, finalement. Alors, donc, nous sommes au nom de Jean. On connaît encore
oui, ça,
aujourd'hui.
Oui, ça, c'est intéressant, hein, ça. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, Yohanan?
Yohanan, en hébreu, ça signifie « Dieu fait grâce hein. ». Yo, c'est Yahvé. Et Hanan, c'est le verbe faire grâce, montrer de la miséricorde, montrer de la compassion, ce qui nous situe dans le droit fil du thème développé tout à l'heure. Le nom même de cet enfant est un révélateur de qui est Dieu. Dieu est celui qui fait grâce. Et le nom de Jean contribue à annoncer, par son seul nom finalement, le projet du salut qui est déjà en train de s'accomplir. Le nom n'était pas nouveau en Jean, le nom Jean n'a pas été inventé pour ce bébé en particulier. La nouveauté, c'est qu'il arrive là où on l'attend pas, il devrait s'appeler Zacharie. Et c'est important le nom parce que ça dit bien... qu'on est une personne sociale, qu'on est inséré dans le langage et dans la culture aussi. Un peu comme si la naissance physique est aussi une naissance familiale, sociale et culturelle. Vous connaissez sûrement des jeunes parents, vous qui faites des préparations au baptême, à quel point ils se posent des questions sur le nom.
Oui, oui. Et je peux vous dire que c'est toujours ma première question. Pourquoi l'avez-vous appelé ainsi? Est-ce que vous en connaissez la signification?
Ah, oui.
Et si j'en connais la signification et qu'eux ne connaissent pas, ils ont beaucoup de plaisir à entendre. C'est vrai ce que vous dites.
Ah oui, c'est traité avec beaucoup, beaucoup de soin aujourd'hui par les parents, souvent même avant que la grossesse soit annoncée. C'est parce que je pense on est conscient que le nom c'est lié à notre identité. On dit bien un nom propre. On veut que cet enfant qui va naître ou qui vient de naître soit une personne unique. Ça va être lui, ça va être elle. C'est pas tout le monde, c'est pas n'importe qui. Et autant que possible, ce sera pas une pure projection des parents ou des ancêtres. Donc le nom nous situe dans nos relations finalement à la fois avec le passé et avec l'avenir. Alors ici le nom de Jean situe le personnage de l'enfant Jean dans sa relation à Dieu. Hein, son identité, elle est une relation à Dieu, c'est Dieu fait grâce et ça le situe aussi socialement, culturellement et religieusement dans sa relation au peuple de Dieu. Sa relation au peuple de Dieu sera de témoigner de ce Dieu qui fait grâce et plus spécifiquement d'être le précurseur de celui qui incarne la miséricorde même de Dieu, c'est-à-dire le précurseur de Jésus. Je parle de l'avenir de ce que sera Jean le Baptiste, ça correspond bien à la question qui se pose dans le texte. Hein. Les gens ayant vu la nouveauté de ces événements, le nom,
oui,
tout ça.
Oui. La question, que sera donc cet enfant?
Qu'est-ce qui va arriver avec lui?
Parce que c'est tellement inusité. Hein?
C'est ça.
D'abord, la maman qui était stérile, puis ensuite, mais c'est elle qui prend la parole, c'est elle qui décide, etc. Bon.
Oui.
Donc,
il se passe plein de choses un peu incongrues. Ouais. Ça augmente la question. Que sera donc cet enfant? On sort du, si vous me permettez un mot anglais, on sort du trip petit bébé.
Mm-hmm.
Hein, on est tourné vers l'avenir de cet enfant, déjà. Remarquez que la question que sera cet enfant, qu'est-ce qu'il va devenir, elle est toujours posée dans les événements de naissance. Qu'elle soit formulée ou qu'elle soit intérieure, on se demande qu'est-ce qui va arriver. Ça nous rend conscient, l'arrivée d'un enfant, que l'avenir est ouvert. Et donc, ça ouvre notre espérance. Mais ça nous rend conscient que l'avenir est incertain et indéterminé. Et dans ce sens, c'est aussi une source d'inquiétude jusqu'à un certain point. Alors, que sera donc cet enfant? C'est la question que les gens se posent. Et la réponse, vous la connaissez, nos auditeurs la connaissent. Il sera le baptiseur. Hein? Il sera celui qui prêchera au désert la conversion en vue du pardon des péchés. Il sera celui qui, du point de vue chrétien, est considéré comme le précurseur de Jésus. Et ce lien que les chrétiens font entre Jean et Jésus, Luc le suggère dès ce dernier verset que nous avons lu aujourd'hui en disant « L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait », il emploie une formule très proche de ce qu'il dit un peu après, parce que Jésus
oui,
est né après Jean. La formule ressemble, Luc va dire à propos de Jésus « L'enfant grandissait, se fortifiait, se remplissait de sagesse ». On voit qu'il veut vraiment nous rappeler le parallèle entre Jean et Jésus. Ils sont à la fois semblables et à la fois infiniment distants, puisque pour les chrétiens, Jean est le précurseur et Jésus sera le Messie. La dernière phrase de notre récit, que vous pourriez peut-être nous rappeler.
« Et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. »
Oui. Donc, la dernière phrase me permet d'extrapoler un tout petit peu sur la mission de Jean le Baptiste, même si elle n'est pas incluse dans notre texte d'aujourd'hui. On sait que Jean-Baptiste n'est pas devenu prêtre. On sait ce qu'il est devenu, mais on porte pas suffisamment attention au fait qu'il ne soit pas devenu prêtre comme son père, ce qui aurait dû être le cas. Donc, Jean va plutôt faire un choix de marginalité religieuse. Il va devenir un prophète comme il n'y en a plus eu depuis longtemps en Israël, un prédicateur public controversé et attirant, populaire, mais contesté par les autorités. Il y a là vraiment un choix, une manifestation de la nouveauté et d'une grande liberté de Dieu. Et cette mission-là, elle était déjà annoncée par l'ange à Zacharie, et dans des termes qui rappellent le prophète Élie. C'est par exemple au chapitre 1, verset 16, l'ange avait dit à Zacharie, « Ton fils ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. » Et cette manière-là de penser que Jean va faire comme Élie, elle est liée au fait que, au temps de Jésus, on attendait le retour d'Élie. On pensait que Élie reviendrait juste avant le Messie. Et on se fondait pour ça sur une citation, un passage du prophète Malachie que j'ai le temps de vous lire. Donc, Malachie au chapitre 4, « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète. Il ramènera le cœur des pères vers leur fils. » Et donc, vous voyez qu'on attendait Élie, Jean-Baptiste, ici apparaît comme cet Élie dont on attend le retour. Alors, pour conclure sur l'ensemble du récit, je dirais que pour nous, la naissance d'un nouvel enfant, c'est un moment très intense vécu au présent. Mais en même temps, c'est un présent dans lequel l'avenir et le passé se rencontrent. L'enfant qui arrive, il vient de notre passé, il reçoit notre héritage, il vient de notre culture, de notre histoire collective, même d'un peuple. Et pourtant, il représente l'avenir, la nouveauté, l'imprévisible. Alors, c'est la même chose ici. On a des événements de Dieu vécus comme le salut offert au présent, et le récit est fait pour qu'on regarde en arrière toute l'histoire du salut passé, la promesse, l'alliance, et le projet qui s'ouvre vers l'avenir de Dieu et vers cette imprévisibilité, je dirais, de Dieu qui fait du neuf. Avec Jean-Baptiste, on est à la frontière des deux testaments, l'Ancien et le Nouveau.
Vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, Claude Julien, à la recherche musicale Marina Hushinskaya, à la technique Alain Primo. Nous vous souhaitons une belle et bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste, une bonne semaine, et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à la même heure.